Nous prenons la parole dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous allons au chapitre 2. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Alors, nous avons vu, il y a 15 jours et il y a 3 semaines, différents éléments de la bonté de Dieu. On avait expliqué que le Seigneur était bon dans sa nature. La bonté faisait partie de lui. Ce n'était pas une qualité extérieur, c'était vraiment une qualité qui était en lui. Il était défini par la bonté. Et on avait expliqué que cette bonté, la bonté de Dieu se manifestait de différentes manières. Elle s'est manifestée, on a donné 3 exemples, on a parlé de la révélation de Dieu. Dieu a manifesté sa bonté en se révélant à l'homme. Il a manifesté sa bonté en donnant sa vie à l'homme et il a aussi manifesté sa bonté en manifestant la justice. Alors, la révélation avait été cachée, la face de Dieu avait été éloignée de l'homme à cause du péché. Le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden et il lui avait donné un commandement. Mais à part ce commandement, l'homme avait tous les privilèges qu'il pouvait espérer. Il avait le droit de toucher à tout, sauf à un seul arbre. Et le Seigneur lui avait demandé, il avait averti que s'il touchait le fruit de cet arbre-là, il mourrait certainement. Et nous avons vu le constat, c'est qu'après que Adam ait mangé de ce fruit, physiquement, il était encore en vie. Nous avons donc expliqué par là que la vie de laquelle Dieu parlait n'était pas la vie physique. C'était une vie selon Dieu, une vie selon l'Esprit. Et cette vie avait été détériorée, cette vie avait été gâchée à cause du péché. Et cette vie que nous n'avions pas autrefois lorsque nous étions dans le monde, dans la tristesse, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes sortes de péchés, nous étions malheureux. Et cette vie a été restaurée dès l'instant où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc cette vie qui avait été étouffée, qui avait été gâchée par la faute d'Adam, le Seigneur dans sa bonté est venu la restaurer. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas de vivre loin de l'homme, mais c'est d'avoir une communion, de permettre à l'homme d'avoir une vie privilégiée dans le Seigneur en acceptant Jésus-Christ. La révélation de Dieu est revenue parce qu'elle était cachée. Nous étions tous errants, la Bible dit. Chacun suivait sa propre voie. Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais pensé un jour entrer, participer à un culte, louer le Seigneur. Mais parce que Dieu est bon, alors que nous étions mauvais, il s'est révélé à nous. Parce que ce que nous pouvons comprendre de Dieu, nous le pouvons par le concours du Saint-Esprit. On peut passer des années et des années d'études à lire la parole de Dieu. Mais si l'Esprit Saint ne nous révèle pas, ne nous fait pas comprendre la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne comprenons rien. La parole que nous pouvons comprendre, nous le pouvons parce que Dieu le permet. Et ça, c'est le signe de sa bonté de se révéler à l'homme. Mais on avait expliqué que parce que Dieu était bon, il devait aussi être juste. Une personne qui est bonne, c'est une personne qui est juste, qui ne fera pas de parti pris, qui justifiera le pauvre, qui justifiera celui qui est dans son droit, celui qui a été délaissé, celui qui a été malmené, Dieu lui donnera justice. Si aujourd'hui, bien-aimés, on laissait tous les truands dehors, ils commettent des meurtres et on les laisse, la sentence acquittée, bien-aimés, beaucoup diront que cet état-là, c'est un état qui est mauvais. Un état qui sera reconnu comme bon, c'est un état qui rendra justice lorsque le préjudice sera commis. Alors, parce que Dieu était juste, alors qu'il avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, alors qu'il avait créé l'homme pour avoir une communion particulière, une communion privilégiée, parce que Dieu est aussi juste, il fallait qu'il condamne, il fallait qu'il juge. C'est pourquoi, après que Adam et Ève ont péché, la terre a été maudite. Les circonstances de la vie de l'homme ont changé à ce moment-là. La nature a changé. Les animaux qui étaient bons, ils pouvaient vivre ensemble, le lion comme la brebis, sont devenus sauvages. Les plantes qui faisaient du bien à l'homme ont commencé à produire l'allergie au pollen et tout ce qu'on veut bien aimer à cause du péché. Mais parce que Dieu était juste, il fallait qu'il prononce un jugement. Et dans toute cette manifestation de la bonté de Dieu bien aimé, il y a un objectif qui est derrière. Le Seigneur est bon. Cette relation dans laquelle il était avec Adam, c'est cette relation que le Seigneur veut que nous puissions aussi être avec lui. Et si nous pouvons l'expérimenter en partie sur la terre, bien-aimée, sachant qu'elle sera extraordinaire lorsque nous serons au ciel. Donc si le Seigneur s'est révélé à nous, s'il nous a donné sa vie et s'il manifeste sa justice, c'est pour nous donner un avant-goût du ciel. À travers ce que nous vivons, à travers ce que nous expérimentons dans le Seigneur, cela est fait pour nous donner davantage la soif de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le voir face à face. Mais dans toutes ces choses-là, le Seigneur nous a laissé toujours maître de nos choix et de nos décisions. C'est un avant-goût que Dieu nous donne. C'est une présentation que Dieu nous montre. Mais ensuite, c'est à nous de faire le choix d'accepter cette vie, d'accepter cette révélation, d'accepter la justice de Dieu pour qu'un jour, nous puissions être définitivement avec lui. Nous avons dit aussi que le Seigneur avait manifesté sa bonté par excellence en donnant Jésus-Christ à la croix. Le peu que nous connaissons de Dieu, il y a des choses que le Seigneur ne nous a pas encore révélées, des choses pour lesquelles nous pouvons peut-être prier aujourd'hui, des prières que nous avons adressées au Seigneur, mais qui sont encore floues, qui paraissent comme ne pas être exaucées. Mais le peu que nous pouvons connaître à partir de Jean 3,16, pour nous doit être la démonstration parfaite de la bonté de Dieu. La Bible dit que encore pouvons-nous mourir pour un juste, pouvons-nous nous sacrifier pour des gens de bien. Mais Dieu a manifesté, il a prouvé son amour une fois pour toutes. Parce que nous étions pécheurs, parce que nous étions mauvais, nous étions loin de Dieu, nous étions idolâtres. Le Seigneur a quand même donné son Fils unique à la croix, afin de nous donner la vie éternelle. Ça, c'est la manifestation parfaite de la bonté de Dieu. Mais parce que le Seigneur est bon, dans la vie qu'il nous permet d'honorer chaque jour, en le louant et en l'adorant, nous pouvons encore voir sa gloire, nous pouvons encore manifester le désir de le connaître davantage, nous pouvons encore manifester le désir d'être avec lui un jour éternellement. Mais à travers encore la bonté de Dieu bien-aimé, que le Seigneur manifeste, ou en tout cas que le Seigneur veut manifester en utilisant l'homme, c'est pour aussi sauver d'autres hommes. C'est pour que d'autres personnes puissent entendre, comprendre la révélation de Dieu. C'est pour que les opprimés, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont sans espoir, puissent vivre la vie que Dieu propose. C'est pour ceux qui sont dans le péché, qui sont loin de Dieu. Comme le Seigneur dit dans le livre de Jonas, qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, pour qu'ils puissent être avertis des jugements de Dieu, pour les amener à la repentance. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que les méchants meurent, ce n'est pas que le pécheur demeure dans son péché, mais c'est pour qu'il soit délivré, pour qu'il sente sa misère, comme nous dit l'apôtre Jacques, et qu'il revienne à Dieu. Et toutes ces vertus de la bonté de Dieu, tous ces éléments qui constituent la bonté de Dieu, doivent être manifestés auprès de tous les hommes, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors si nous avons eu cette grâce d'avoir la révélation de Dieu, si nous avons eu la grâce et de pouvoir vivre la vie de Dieu, malgré l'épreuve, être dans la joie, malgré le manque, être dans une vie qui paraît comme abondante, si nous sommes maltraités, mais vivre comme étant déjà justifiés par Dieu, si le Seigneur nous a fait connaître tout ça, c'est pour que nous puissions aussi le partager à d'autres. Si le Seigneur nous a fait grâce les premiers, ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Peut-être qu'on est même pire, mais c'est par la bonté de Dieu et par sa souveraineté. Et le Seigneur voudrait qu'à partir de cette vie, de cette révélation qu'il nous a donnée, on puisse l'honorer pour que son nom à lui soit glorifié. Ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour que la gloire lui revienne à lui seul. Nous lisons Matthieu chapitre 28, à partir du verset 20. Nous lisons à partir du verset 16. Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Actes chapitre 1er, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Alors le Seigneur, après sa résurrection, rencontre ses disciples. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez. Lorsqu'on dit, allez bien-aimé, ce n'est pas un conseil. Lorsqu'on dit à quelqu'un, va, c'est un ordre. Et le Seigneur dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur va donner cet ordre. Le Seigneur va donner cette mission à ses disciples. Or, les disciples, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet ordre que le Seigneur avait donné à ses disciples à cette époque-là, c'est un ordre qui est encore valable pour nous. C'est un ordre auquel nous devons nous soumettre et auquel nous devons obéir. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission que le Seigneur nous demande. Or, le disciple, c'est celui qui est semblable à son maître. Le disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Donc le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations d'autres Jésus, d'autres personnes qui me ressemblent. Formez-les, enseignez-les à la bonne nouvelle. Enseignez-les à marcher comme moi. Manifestez ma nature, puisque vous êtes mes disciples, donc manifestez cette nature afin que d'autres me ressemblent aussi. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, je suis venu non en mon nom, mais au nom de celui qui m'a envoyé. Et les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais viennent de celui qui m'a envoyé. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ était venu manifester la nature de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés en manifestant, en allant et en faisant de toutes les nations des disciples. Or, comme nous avons expliqué différents éléments qui constituent même la nature de Dieu, par sa bonté, nous serons obligatoirement, bien-aimés, appelés à manifester et à rappeler qui est Dieu. Mais Dieu est bon et dans sa bonté, il la manifeste par sa révélation. Donc nous, en tant que disciples, nous sommes appelés pour faire des nations de disciples à amener la révélation de Dieu. Nous avons connu la vie de Dieu par sa bonté. Donc nous serons appelés à présenter, à manifester la vie de Dieu auprès de celui qui ne le connaît pas. Et puisque Dieu est juste et qu'il jugera un jour, nous ne pouvons pas faire autrement, bien-aimés, que de faire comme le Seigneur et de prononcer le jugement de Dieu, d'avertir les gens qui sont dans le péché que s'ils ne se repentent pas, ils finiront en enfer. Puisque le Seigneur l'a fait en manifestant la nature de son Père, nous ne pouvons pas faire autre chose que Jésus-Christ si nous appelons disciples de Jésus. Jésus-Christ est venu manifester la bonté de Dieu, tel que Dieu est lui-même, et c'est à cela, bien-aimés, que nous sommes appelés. Apporter la révélation de Dieu, manifester la vie de Dieu, présenter la vie de Dieu, et rappeler le jugement de Dieu à ceux qui ne sont pas encore dans la voie droite. Rappeler les jugements de Dieu à ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui marchent un pied dehors et un pied dedans. On doit faire ainsi, bien-aimés, puisque c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Il est dit dans Actes 1:8 que nous recevons une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur nous. Et la Bible dit que seulement ensuite, nous deviendrons des témoins de Dieu. Le témoin, bien-aimé, c'est celui qui raconte ce qu'il a vu. Le témoin, c'est ce qu'il raconte, ce qu'il connaît, ce qu'il sait. On ne peut pas parler du Seigneur sans le connaître. On ne peut pas parler du Seigneur sans avoir sa révélation. On ne peut pas parler du Seigneur sans avoir sa vie. On ne peut pas parler du Seigneur sans connaître ses jugements, sans connaître les événements de la fin des temps. Donc pour être de véritables témoins, il faut déjà avoir eu cette révélation. Pour être de véritables témoins, il faut vivre cette vie de Dieu. On ne peut pas dire aux gens « Dieu va te consoler » si nous-mêmes nous n'expérimentons pas la consolation de Dieu, si nous n'acceptons pas la consolation de Dieu. Parce que la consolation de Dieu, elle est ouverte pour tout le monde. Mais il y a ceux qui sont dans les raisonnements, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu permet. Il y a ceux qui sont dans des doutes, dans des questionnements, qui n'arrivent pas à être consolés d'un être qu'il a perdu, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, parce qu'ils n'acceptent pas la consolation de Dieu. Donc pour parler du Seigneur, il faut avoir sa révélation, bien-aimée. Et pour parler de sa vie, il faut nous-mêmes la vivre. Le témoin, c'est celui qui vit la vie de Jésus. C'est celui qui atteste, celui qui va garantir la véracité de la parole de Dieu. Celui qui va garantir que oui, réellement, Jésus-Christ guérit. Celui qui va garantir que réellement, Jésus-Christ change. Parce que cette vie-là, nous la portons, nous la vivons. Ainsi, nous pouvons être des témoins. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et soyez mes témoins. Allez témoigner de moi. Maintenant, le Seigneur nous demande. C'est un choix. Aujourd'hui, bien-aimés, lorsque on a vu quelque chose qui s'est passé dans la rue, on va passer l'annonce à la télé. Si vous avez vu un enfant habillé de telle manière qui a disparu, alors que toi tu l'avais vu, bien-aimé, si tu n'appelles pas, personne ne viendra te chercher chez toi. C'est un choix délibéré de dire « moi j'ai vu et je vais attester ce que j'ai vu ». De cette même manière, lorsque le Seigneur nous parle d'une manière impérative, en disant « allez bien-aimé », en réalité nous restons toujours maîtres de nos choix. La démonstration, c'est qu'aujourd'hui, quand on décide de ne pas venir écouter la parole de Dieu parce qu'on est fatigué et on estime qu'on a besoin de dormir. Personne ne vient nous chercher, bien-aimés. Dieu n'envoie pas les serviteurs aller sonner à la porte pour dire « Mais pourquoi tu dors encore? Il faut venir au culte. » À ce moment-là, on est maître de dire « Je vais ou je ne vais pas. » Lorsque l'on entend la parole de Dieu qui nous exhorte à changer de voie, à nous repentir du péché dans lequel nous sommes, mais lorsque nous sortons, que nous retournons à la maison et que nous continuons, nous sommes maîtres de nos choix, bien-aimés. Et ce choix-là, le Seigneur nous laisse volontairement parce qu'il ne veut pas nous forcer et il veut que cette communion soit libre. Il veut que l'amour, l'échange qu'il y a entre nous et lui, ce soit un échange qui soit libre, sans contrainte. Alors ce matin, encore bien-aimés, nous avons le choix de pouvoir chercher la face de Dieu. Nous avons le choix de prendre la décision dans notre cœur de changer de vie. Nous avons le choix de prendre la décision dans notre cœur aujourd'hui de servir Dieu. Ou nous avons le choix aussi de dire, ben, j'attends demain. Nous avons le choix aussi de dire, pour le moment, ce n'est pas pour moi. Nous avons le choix aussi de dire oui devant les hommes et de faire le contraire dans la vie. Mais sachant une chose, que parce que Dieu est bon, eh bien, il nous appellera aussi en jugement pour toutes ces choses-là. Parce que si, à travers nous, le Seigneur veut nous utiliser pour se manifester auprès des autres, pour rappeler ses avertissements auprès des autres, bien-aimés, soyons certains qu'il commencera d'abord par nous qui avons connu et entendu la vérité. Dieu n'épargnera pas, comme on l'a dit, si à cause de sa justice, il n'a pas épargné son propre fils, bien-aimé, il ne nous épargnera pas non plus. Mais parce que Dieu est bon, il veut que nous puissions nous repentir et surtout le servir. Or, nous ne pouvons servir Dieu que si nous réalisons profondément ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, l'amour que nous pouvons redonner au Seigneur, c'est un amour qui vient de lui. Lorsque nous méditons sur ce que Dieu fait pour nous, lorsque nous réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est un amour qui se manifeste automatiquement. C'est une renaissance qui se manifeste automatiquement. Il n'y a pas besoin que les gens nous poussent. Il n'y a pas besoin que les gens nous prêchent. Mais nous-mêmes, si nous sentons, nous reconnaissons l'amour et le sacrifice de Jésus, automatiquement nous lui rendrons. Et il n'y a que comme ça, bien-aimés, que nous pouvons servir Dieu, c'est que si nous réalisons ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, vous savez, lorsque une personne nous aime, une personne nous fait du bien, ça nous fait mal de décevoir la personne. Donc si réellement nous avons cet amour pour Dieu, lorsqu'on sort d'ici, bien-aimés, on doit changer notre vie. Si réellement nous aimons Dieu, ce n'est pas par des paroles que l'on va manifester notre amour pour Dieu, c'est par des actes. Le Seigneur dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Mettre des offrandes dans le panier, bien-aimé, ce n'est pas ça qui garantit l'amour pour Dieu. Donner sa voiture à un frère parce que Dieu nous le demande, ce n'est pas ça qui garantit l'amour pour Dieu. Bien-aimé, c'est une vie de pratique chaque jour. C'est par la pratique qu'on démontrera que réellement on aime le Seigneur parce qu'on ne veut pas le décevoir. Lorsqu'on est dans un péché, bien-aimé, et on sait que le Seigneur en souffre parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ a souffert. Il a été piétiné, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines. Tout ça pour nous donner la vie. Mais bien-aimés, lorsque nous nous assoyons un instant, que l'on médite sur tout ça, on était mauvais. On n'a rien donné en échange à Dieu. Bien-aimés, comment, lorsque le Seigneur nous appelle pour le servir, on a encore le courage de dire non, 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 moi, pour le moment, ça, ce n'est pas pour moi. Quel courage l'homme a-t-il ? David dit, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? On a été créé de la terre. Et Dieu qui est bon nous appelle à pouvoir le servir. Bien-aimé, le privilège est pour qui ? Les gens refusaient de louer, refusaient de reconnaître le Seigneur. Nous, nous sommes fils d'Abraham. Le Seigneur Jésus leur a dit, mais vous n'avez rien compris. Même à partir de ces pierres-là, Dieu peut donner des enfants à Abraham. Dieu n'a pas besoin de vous. À partir de ces pierres-là, il peut susciter des enfants à Abraham. Donc le privilège est pour qui, bien-aimé ? Lorsqu'il nous permet de l'adorer et de le servir, le privilège est pour nous. Mais ce privilège-là, nous pouvons le réaliser, nous pouvons le comprendre que si nous réalisons d'où nous sommes venus. Matthieu chapitre 5. Alors je vais parler de deux aspects, Matthieu 5, à partir du verset 13, à partir de Matthieu 28, par lequel le Seigneur nous envoie et nous demande de faire de toutes les nations des disciples, à partir de Actes, chapitre 1, à partir du verset 8, où le Seigneur nous dit que nous sommes appelés à être ses témoins, on va essayer de comprendre, bien-aimés, qu'à partir du témoignage que Dieu nous demande de pratiquer, nous pouvons manifester, rappeler la bonté de Dieu. Et à partir du fait d'aller, comme le Seigneur a dit, d'aller enseigner, d'aller prêcher la bonne nouvelle, nous pouvons aussi rappeler et manifester la bonté de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 13, la Bible dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Notre lumière, celle que Dieu a mise en nous, est appelée à briller, est appelée à se manifester devant les hommes, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Voilà, la Bible nous dit que, ayant accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus le sel de la terre. Nous sommes devenus la lumière du monde. Or, si le sel perd de sa saveur, mais qui va lui rendre? Si le sel qu'on utilise pour donner du goût aux aliments perd de sa saveur, mais qu'est-ce qu'on va mettre pour remplacer le sel? Le Seigneur dit que c'est ainsi. Nous sommes appelés à donner de la saveur au monde. Nous sommes appelés à donner de l'espérance au monde. La saveur, bien-aimée, c'est ce qui donne un bon goût. La saveur, c'est ce qui le rend agréable. Nous sommes appelés, par la vie de Jésus que nous avons reçue, à donner de la saveur, à donner du goût, à donner de l'espérance, à donner, à apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, par notre témoignage. Et le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Or, il dit, comment pouvons-nous allumer une lampe et la mettre sous le boisseau, la mettre sous la table? Ce n'est pas la logique des choses. Lorsque l'on allume une lampe, c'est pour qu'elle soit éclairée et qu'elle éclaire, la Bible dit, tous ceux qui sont dans la maison. Donc si nous avons reçu la vie de Dieu, bien-aimés, si nous avons eu la révélation de Dieu, si nous avons compris le Seigneur, notre vie doit être amenée, bien-aimés, à être manifeste aux yeux de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, de ceux qui n'ont pas eu cette révélation, de ceux qui n'ont pas eu cette vie. Or, cette vie-là, nous pouvons la manifester, bien-aimés, dans notre propre témoignage, dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler. La vie de Dieu, bien-aimé, ne se manifeste pas simplement le jour des exploits. Ce n'est pas tous les jours que le Seigneur nous demande de faire des exploits. Ce n'est pas tous les jours que le Seigneur fait des exploits avec nous. Ce n'est pas tous les jours où le Seigneur nous met dans des situations où il faut prier pour que un paralytique se lève, pour qu'un mort ressuscite. Mais c'est dans la vie de chaque jour que nous avons l'occasion de manifester la vie de Jésus. Et dans la vie de chaque jour, nous côtoyons nos voisins, dans notre manière de parler, dans notre manière d'être accueillants. Dans la vie de chaque jour, nous pouvons être en situation où nous pouvons recevoir du monde à la maison, dans cette hospitalité, afin que le nom de Dieu soit glorifié, que votre lumière luise. La vie que nous avons reçue du Seigneur, nous sommes amenés, bien-aimés, à la témoigner. Car en témoignant de Jésus-Christ, en témoignant de la nature de Dieu, bien-aimés, nous pouvons manifester la vie de Dieu. Nous pouvons présenter la vie de Dieu. Certains entendent parler du Seigneur, mais ils ne comprennent pas. Certains pensent que non, la vie de Dieu, c'est de la philosophie. La vie avec Dieu, ce n'est que de l'histoire. Mais lorsqu'ils nous voient vivre, bien-aimés, alors ils voient que oui, réellement, ce que la Bible dit est vrai. Lorsque nous témoignons cette vie, ce que ceux qui étaient dans les ténèbres cherchaient, ils voient que réellement, la lumière existe. Ceux qui sont sans espoir, sans espérance, qui sont dans des problèmes, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas la paix. Mais lorsqu'ils nous voient vivre, témoigner de la nature de Dieu, alors ils comprennent que réellement, c'est possible d'être joyeux. C'est possible d'avoir la vie. C'est possible d'être heureux. C'est possible de ne plus être dans la tristesse lorsque nous nous témoignons de cette vie-là. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, bien-aimés, afin de pouvoir donner la vie. Lorsque l'on parle souvent de l'évangélisation, c'est vrai, peut être manifeste simple à partir de la prédication. Mais la prédication, c'est parler du Seigneur. Or, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous pouvons parler du Seigneur à travers notre manière de vivre. Notre manière de vivre témoignera de l'Évangile, témoignera de la parole de Dieu, témoignera de la nature de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Les œuvres que j'ai faites, la manière de parler, l'amour qu'il a manifesté, la compassion qu'il a manifesté, le pardon qu'il a manifesté, alors qu'il est en train d'être crucifié, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette nature de Dieu, c'est ça qui donne la vie, bien-aimée. Et nous sommes appelés à le témoigner. Vous serez mes témoins. Et dès l'instant où nous avons reçu la vue de Jésus, l'Esprit-Saint, nous sommes devenus des témoins de Dieu. Et à travers le témoignage de notre propre vie, on peut donner la vie à ceux qui ne l'ont pas. À travers notre propre vie, bien-aimée. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Allez et faites de toute une nation des disciples. Et par notre témoignage, on peut. Actes chapitre 11. La Bible dit, bien-aimés, que le Seigneur a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Il y a des personnes qui cherchent le Seigneur et qui se retrouvent chez les témoins de Jéhovah, qui se retrouvent dans des sectes, qui se retrouvent à consulter des voyants parce qu'il y a quelque chose dont ils ont besoin, mais ils n'ont pas encore déterminé cette chose-là. Une chose qui a rapport avec l'éternité. Et lorsque les gens voient la vie de Jésus, lorsque la vie de Jésus devient visible, lorsque la parole que nous avons reçue devient chère, alors les gens peuvent maintenant contempler la parole de Dieu. On voit que dans l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Seigneur, les gens ne comprenaient pas la parole. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Ceux qui ne comprenaient pas la loi, ils l'ont vu maintenant en chair. Ceux qui ne comprenaient pas la parole de Dieu, lorsqu'ils la lisaient, lorsqu'ils ont vu la vie de Jésus, ils ont maintenant compris qu'est-ce qu'était la parole, bien-aimés. Nous voyons aujourd'hui, lorsque on est en cours de chimie, en cours de physique, on va nous donner des formules de certains composants, des formules pour faire certaines expériences. Mais lorsque la formule est sur le papier, elle ne reste que théorique. Mais dès l'instant où nous passons à la pratique, que nous faisons les manipulations, cette formule-là devient réelle parce qu'on la voit, on la comprend mieux. Et les gens voyaient la parole de Dieu, ou certains la voient encore comme une formule, comme une théorie qui paraît loin. Mais lorsque maintenant nous la pratiquons, c'est quelque chose maintenant qui devient réel. Ce que nous n'avons pas compris en lisant, lorsque nous le voyons maintenant se manifester, on comprend que c'est vrai. Lorsqu'on dit à un enfant, si tu mélanges du noir et du blanc avec la peinture, ça va faire du gris. Pour lui, ça va être quelque chose d'abstrait, il ne peut pas comprendre. Mais si tu prends la peinture et que tu fais le mélange devant lui, maintenant il comprend mieux ce que tu veux dire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu en manifestant, en témoignant de la bonté de Dieu. Ceux qui ne l'avaient pas compris en lisant, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont compris réellement qu'est-ce qu'était la bonté de Dieu. Ils ont compris réellement qu'est-ce qu'était la nature de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés en témoignant par notre vie. Lorsque les gens entendent parler de Jésus, mais qu'ils pensent que c'est une légende, qu'ils pensent que c'est un mythe, on dit « gifle, tu tends l'autre joue ». Pour eux, non, ça c'est impossible. Mais lorsqu'ils voient un enfant de Dieu être humilié et de continuer à aimer, pour eux, l'évangile commence à prendre un sens. Ils commencent à comprendre que oui, réellement, ce que nous avons lu, c'est aussi possible de le vivre parce que nous l'avons vu chez telle personne. Voilà ce que nous dit la Bible, acte 11, à partir du verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens bien-aimés, non pas qui marchaient dans les rues, qu'ils criaient « Nous sommes chrétiens, nous suivons Jésus ». La Bible dit que c'était dans leur manière de vivre, dans leur manière de pratiquer les commandements du Seigneur. Lorsque les gens les ont observés, ils ont eu le sentiment de voir Jésus. Ils ont eu le sentiment de comprendre finalement celui qui prêchait. Ce centenier romain bien-aimé, à la croix, n'avait pas forcément vu les exploits de Jésus. Il n'avait pas forcément compris la prédication de Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ a crié « Tout est accompli », lorsque les ténèbres sont arrivées, lorsqu'il y a eu des manifestations de la nature, il a reconnu que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. La nature, par sa manifestation, est venue attester que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Le Seigneur n'a pas eu besoin de crier, simplement par sa nature. Il a témoigné, il a manifesté qu'il était le Fils de Dieu. Et les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens à travers leur propre témoignage, à travers la vie qu'ils ont manifestée. Ils ont compris que oui, réellement, ces gens-là sont comme Christ. Chrétien, ça veut dire partisan du Christ, soldat du Christ ou comme Christ. Donc ces gens-là ont compris dans leur manière de vivre, lorsqu'ils ont observé, ils ont vu que ces gens-là étaient comme Jésus. Donc à travers leur témoignage, à travers leur vie, ils ont pu montrer aux gens que oui, réellement, Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité. Parce que ce Jésus-Christ-là continue encore à vivre. Et c'est par cette vie, c'est par cette puissance qui donne la capacité à ses disciples de reproduire les mêmes œuvres que lui, de parler comme lui, de pouvoir aimer comme lui. Ces gens-là sont vraiment comme Jésus-Christ. Et c'est à ça que nous sommes appelés, bien-aimés, témoigner de la nature de Jésus pour pouvoir donner la vie et pour pouvoir apporter la révélation. Ces gens-là n'ont peut-être pas entendu la prédication, mais simplement, par leur manière de vivre, ils ont apporté la révélation de Jésus-Christ. Les gens avaient peut-être entendu l'Évangile, mais c'était peut-être un entendement qui était loin, qui était vague, un entendement qui était partiel. Mais lorsqu'ils ont vu la vie des disciples, alors réellement, ils ont eu la révélation de Jésus. Lorsque l'on parle du Seigneur bien-aimé, d'une manière théorique, ça peut paraître difficile à certains de comprendre. Et ils ont besoin de voir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Car en étant témoin de Jésus, on peut manifester, montrer aux gens la bonté de Dieu à travers sa vie que nous allons manifester et partager aux autres, mais à travers cette révélation de Dieu que nous allons apporter à partir même de notre propre vie. Les prophètes qui sont venus avant le Seigneur, dans leur manière de vivre, dans leur jugement, dans le fait qu'ils soient mis à part, ils ont apporté la révélation de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur avait voulu faire avec son peuple. Lorsqu'il les a délivrés, lorsqu'il les a sortis de l'Égypte, il leur a donné toutes sortes de recommandations. Vous ne ferez pas comme les nations font. Vous ne prosternerez pas devant les idoles comme eux le font. Vous ne mangerez pas de telle nourriture comme eux le font. Parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et vous aussi, vous serez saints. Or, saint, ça veut dire mis à part. Donc, parce que moi, je suis à part, vous aussi, vous serez à part. Et le Seigneur avait voulu, à travers ces recommandations physiques, à travers cette manière que le peuple allait vivre, ils allaient devenir le témoignage du Dieu d'Israël. À travers leur manière de vivre, leur manière d'être mis à part par Dieu, par les commandements que Dieu leur avait donnés, ils pouvaient maintenant manifester aux autres nations que le peuple de Dieu était un peuple à part. À partir de là, les autres nations pouvaient comprendre et croire que Israël avait un Dieu pas comme les autres. C'est pourquoi il est écrit dans un des psaumes, « Seigneur, fais luire sur nous ta lumière afin que les autres nations le voient. C'était ça l'objectif de Dieu à travers la marque physique, à travers le témoignage de vie que son peuple allait manifester, de pouvoir se révéler aux autres peuples. C'était la volonté de Dieu. Et cette même volonté continue, bien-aimé. Lorsque le Seigneur nous demande de pardonner, c'est parce que le monde refuse de pardonner. Lorsque le Seigneur nous demande d'aimer, c'est parce que le monde refuse d'aimer. Lorsque le Seigneur nous demande de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent, c'est parce que le monde ne peut pas faire ainsi. Et si Dieu nous demande de faire le contraire du monde, c'est pour que, à partir de notre manière de vivre et de pratiquer la parole, le monde sache que ces gens-là sont différents, ces gens-là sont à part. Et à travers notre vie, les gens pourront voir et comprendre la nature de Dieu. Ils pourront avoir la révélation de Dieu. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Vous serez mes témoins. Et nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Et à partir de ce témoignage-là, nous pouvons donner la vie et manifester, apporter la révélation de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 12, à partir du verset 9. Jean 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyez en Jésus. Amen. Alors, au chapitre 11, il nous est dit que Lazare, un homme que Jésus aimait, était mort depuis 4 jours. Alors, le Seigneur est revenu et a fait le miracle de ressusciter Lazare. La Bible nous dit dans ce passage que les principaux sacrificateurs non seulement cherchaient à faire mourir Jésus, mais la Bible dit qu'il cherchait aussi à faire mourir Lazare. La vie de Lazare devenait un problème pour eux. Et comme je le disais, par notre témoignage, nous apportons la vie, nous apportons la révélation de Dieu, mais nous apportons aussi les jugements de Dieu. Lazare était devenu un jugement pour les principaux sacrificateurs. Parce que Lazare était la preuve vivante que Jésus-Christ était au-dessus de tout. Car ressusciter un mort après 4 jours bien-aimés, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et que seul le Messie pouvait faire. Et la preuve que Lazare était bien vivant en chair était la démonstration que les sacrificateurs étaient dans la fausseté, ils étaient dans le mensonge. Et cela devenait pour eux un jugement. C'était un jugement parce que voir Lazare vivant contredisait toute leur doctrine, contredisait toute leur pensée. Et ils étaient jugés parce qu'ils refusaient d'accepter Jésus-Christ comme le Messie. Or, la preuve que Lazare était vivant était devenue un jugement qui leur disait, mais vous vous êtes trompés, parce que le miracle qui a été fait, seul Dieu peut faire ces choses-là. Seul le Seigneur Dieu peut faire ces choses-là. Donc, la vie de Lazare était devenue leur jugement. Et c'est ce que nous vivons, bien-aimés. C'est ce que nous vivons. L'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de persécuter les chrétiens, il n'avait pas de problème. Les gens l'aimaient, les gens étaient derrière lui. Mais dès l'instant où il a reçu la vie de Dieu, il était devenu un jugement pour ceux qu'il avait envoyés, pour ceux qui lui avaient donné l'autorité d'aller persécuter les chrétiens. Il était devenu un jugement parce qu'il avait été transformé. Comment une personne qui persécute, qui assiste lorsqu'on tue les chrétiens, va maintenant lui-même se détourner et prêcher ce Christ-là. C'est la démonstration que réellement, Dieu peut changer même le plus mauvais. Et le fait que nous soyons en vie, nous qui étions dans l'alcool, qui avons changé de vie, c'est la démonstration que Dieu transforme. Nous qui étions dans la drogue, dans la cigarette, le fait d'avoir abandonné ces choses, nous sommes devenus la preuve vivante que Dieu transforme réellement. Nous qui étions dans l'adultère, qui étions dans les boîtes de nuit, nous avons laissé cette vie pour marcher dans la sainteté avec Dieu. C'est la démonstration que réellement Dieu change. Et la société n'accepte pas, parce que la société cherche à avoir le dernier mot. C'est pourquoi bien qu'ils n'ont pas de solution auprès des dépressifs, on les bourre de médicaments, on les met dans une chambre, ils n'embêtent plus personne parce qu'ils n'ont pas la solution et ils n'acceptent pas que Jésus-Christ puisse faire quelque chose. Mais ceux qui ont connu la dépression et qui vont voir leur médecin aujourd'hui, qui prêche la bonne nouvelle, les médecins mettent ça sur le compte du hasard. Ils mettent ça sur le compte de la chance parce qu'ils refusent Dieu. Et en acceptant que réellement ta vie est devenue un miracle de Dieu, ça leur oblige à renoncer à leur intérêt, à renoncer à leur honneur, à renoncer à leur parole. Comme les principaux sacrificateurs, en acceptant que Jésus-Christ était réellement le Messie, ça les poussait à renoncer à leurs droits. Ça les poussait à renoncer aux honneurs qu'ils avaient devant le peuple. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont craint le peuple plus que Dieu. Ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parce que accepter que Jésus-Christ était le Messie remettait en cause tout leur enseignement. Et ils n'étaient pas prêts à laisser ça. C'est pourquoi Lazare était devenu la preuve vivante qu'ils étaient dans l'erreur et ils cherchaient à le faire mourir. Bien-aimés, c'est pourquoi ne nous étonnons pas que le monde en soit après nous. Parce que notre vie, notre témoignage dérange bien-aimés. Lorsque on dit que c'est possible de demeurer dans la sainteté, c'est possible de ne pas vivre dans l'impudicité. Bien aimé, ça dérange le monde. Ça dérange. Et souvent, combien même, on n'a même pas ouvert la bouche. Ah, mais vous les chrétiens, vous vous croyez meilleurs que les autres. Mais on n'a jamais dit ça. Pourtant, c'est eux qui font ce constat-là. Que réellement, on devient comme un miroir. C'est-à-dire, lorsqu'ils voient un enfant de Dieu, ils voient en quelque sorte toute leur saleté. Ils voient combien eux sont impurs. Ils voient combien ils ont des lacunes. Et c'est ça qui fait mal. Et l'homme n'accepte pas. C'est pourquoi ils chercheront à nous faire mourir. Non pas forcément d'une manière physique, mais à nous faire mourir en nous enlevant en quelque sorte une certaine crédibilité. Lorsqu'on va parler, mais non, il ne faut pas l'écouter lui, il raconte des salades. Mais non, il ne faut pas raconter lui, il est dans sa secte, il est dans sa philosophie. Ils vont chercher à l'éteindre. Et c'est ce qu'ils ont fait, bien-aimés. Dès l'instant que l'apôtre Paul est passé de l'autre camp, on a cherché à le faire mourir. Ça montre bien en réalité, bien-aimés, que le véritable problème que le monde a, le véritable problème que Satan a, ce n'est pas directement lié à l'homme, mais c'est lié à ce que l'homme a en lui. Et lorsqu'on a la vie de Dieu, lorsqu'on a le témoignage du Seigneur en nous, bien-aimés, c'est ça qui dérange. Parce que tant que Paul était dans l'autre camp, bien-aimés, on ne l'embêtait pas. Mais lorsqu'il a reçu la vie de Dieu, lorsqu'il a eu la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas, c'est là que toute sa vie a changé. Et lorsqu'il a porté tout ça en lui, le monde ne l'a pas supporté. Il a été obligé de fuir jusqu'à en mourir à la fin, bien-aimés. Mais il était obligé de fuir. Même les chrétiens qui avaient entendu parler de lui avaient du mal à croire que réellement cet homme a changé. Réellement, il avait changé. Parce que Dieu est tout-puissant, bien-aimé. Et on cherchait à faire mourir Lazare parce que le témoignage de sa vie était devenu comme un jugement, bien-aimé, malgré lui. Et c'est ce qui nous arrive, bien-aimé. Et si nous ne l'avons pas vécu encore d'une manière directe, eh bien, bien-aimé, préparons-nous à ça. La Bible dit que si Christ a souffert dans la chair, armons-nous de la même pensée. Si le Seigneur a été persécuté, nous serons aussi persécutés. Si la vie de Jésus-Christ a dérangé les principaux sacrificateurs, notre vie aussi dérangera à un certain niveau. Certains l'ont déjà vécu, bien-aimés. Certains le vivent encore. C'est une réalité. Pourquoi aujourd'hui on enferme des chrétiens? Pourquoi aujourd'hui on n'accepte pas l'évangile? Tant que les gens étaient dans la vie active, monsieur tout le monde, on ne les embêtait pas. Mais dès l'instant où le nom de Jésus-Christ a été prononcé, où la vie de Jésus a été manifestée, c'est là que tout a changé. C'est pourquoi on voit le monde bien-aimé. On peut parler de Bouddha librement à la télé. On peut parler de Mahomet librement à la télé. On peut parler du christianisme d'une certaine manière librement. Parce que le monde, lorsqu'il entend christianisme, il pense tout de suite catholique. Mais dès qu'on parle clairement du nom de Jésus, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Donc dès l'instant où on manifeste la vie de Jésus, c'est là où on dit, ben, vous êtes extrémiste. Mais tant qu'on manifeste une certaine vie, comme certains groupes chrétiens le disent, bien-aimés, on peut un peu nous laisser. Mais quand on est catégorique, qu'on est ferme comme le Seigneur, c'est là où les problèmes commencent. Et dès l'instant où Lazare a été ressuscité, c'est là où les problèmes pour lui ont commencé. Tant que Lazare n'avait pas été mort et ressuscité, On n'a pas entendu dans la parole que les principaux sacrificateurs cherchaient à le faire mourir. Mais quand ils ont appris que Lazare était ressuscité, la Bible dit qu'à cause de Lazare, beaucoup se convertissaient. Et nous sommes devenus des témoins du Seigneur. Et à partir de notre témoignage, beaucoup sont appelés à se convertir. Et c'est ça que le monde n'accepte pas. C'est pourquoi on cherche à mettre les chrétiens de côté, on cherche à les enfermer pour ne pas qu'ils convertissent d'autres. C'est ce qui se passe, bien-aimés, dans les pays où la persécution est grande, on isole les chrétiens pour ne pas qu'ils soient en contact avec les autres. L'apôtre Jean a été expatrié sur l'île de Patmos pour ne pas qu'il soit en contact avec les gens. Lorsque les apôtres prêchaient, on les a mis en prison pour ne pas que l'évangile se répand, bien-aimés. C'est ça qui dérangeait. Donc on cherchait à les étouffer parce qu'ils avaient reçu cette vie. Et le monde a peur que Matthieu 28, 20 s'accomplisse, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le monde a peur que Acte 1, verset 8 s'accomplisse, vous serez mes témoins. Le monde ne veut pas de ça. Donc nous qui avons la vie de Jésus-Christ, par le témoignage de cette vie, nous pouvons donner la vie, nous pouvons apporter la révélation de Dieu, mais nous pouvons aussi manifester le jugement de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, et nous voyons un autre aspect. Nous avons vu à partir du témoignage, conformément à Acte 1, 8, et nous allons voir à partir de Matthieu 28, à partir du verset 19, « Allez et faites de toutes les nations disciples, enseignez-leur ce que vous avez reçu de moi, comme l'apôtre Paul le dit aussi. » Donc nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Le Seigneur dit encore « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Si nous pouvons manifester les éléments de la bonté de Dieu à partir de notre témoignage, nous le pouvons aussi à partir de la prédication. La Bible dit, chapitre Jean 5, à partir du verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Amen. Ceux qui entendront la parole, les morts qui entendront, vivront. C'est pourquoi il est écrit que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Comment croire en Seigneur? C'est lorsque nous entendons l'évangile. La Bible dit dans Éphésiens 1, 13, vous qui avez cru à la parole qui vous a été annoncée, l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est en entendant l'évangile que nous pouvons accepter le Seigneur. C'est en entendant l'évangile, conformément à Romains 10, 17, que nous pouvons avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous avons besoin d'entendre. Le monde a besoin d'entendre aussi l'évangile pour pouvoir recevoir cette vie. Et comme on l'avait expliqué, la vie dont il est question là, ce n'est pas la vie bien-aimée de pouvoir courir, respirer, sauter bien-aimée, non. C'est une vie qui est animée par la paix de Dieu. Une vie qui est animée par l'assurance. Une vie qui est animée par l'espérance. On avait expliqué que beaucoup bien-aimés qui ont beaucoup de moyens, des belles maisons, de belles voitures, qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont même pas l'appétit pour manger. Beaucoup d'argent, mais chaque soir, il faut prendre des somnifères pour dormir. On a vu jusqu'où même Michael Jackson pouvait prendre des médicaments, jusque des anesthésiens qu'on utilise dans le milieu médical pour pouvoir dormir. Pourtant, tous ces gens-là avaient des richesses, ils avaient des biens, mais ils ne vivaient pas parce qu'ils n'étaient pas en paix, parce qu'ils n'avaient pas la joie, ils n'avaient pas la paix de l'âme. La vie dont il est question dans le Seigneur, c'est la vie de l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un homme ne peut pas vivre des choses physiques, mais il peut vivre de la parole de Dieu. Et c'est cette vie-là que le Seigneur est venu proposer. Et beaucoup bien-aimés qui errent comme des brebis sans berger, beaucoup bien-aimés qui marchent toujours la tête baissée, les pieds dans les chaussures, comme on dit. Beaucoup bien-aimés qui sont toujours les deux mains sur la tête, bien-aimés. Beaucoup qui sont toujours en train de se lamenter. Beaucoup qui sont toujours en train de souffler, en train de chercher des solutions, ont besoin d'entendre l'Évangile. Beaucoup qui n'ont plus d'espérance, qui sont là dans la maladie, qui sont coincés dans des problèmes d'argent. Beaucoup qui sont dans la tristesse ont besoin d'entendre l'Évangile. Le Seigneur a dit que ces morts-là entendront ma parole et ils ressusciteront, ils vivront, bien-aimés. Si aujourd'hui nous vivons, on ne peut pas dire que nous vivons à cause des vêtements que nous avons sur nous. Nous vivons parce que nous avons reçu la vie de Dieu. Combien de personnes, bien-aimées, que nous connaissons, qui ont, d'une manière visible, une vie honorable, bien-aimées, ou qui ont eu une vie honorable, qui finissent soit par se suicider. J'ai appris dernièrement, en rencontrant des amis avec lesquels on était au lycée, on se rappelait les uns les autres camarades, et on est venu de parler d'un camarade qui dit « Ah, mais lui, il est vraiment dans des problèmes. » Quand on s'est laissé après le bac, son père a tué sa femme et après il s'est suicidé. Et il est resté tout seul avec sa sœur. Bien-aimé. Pourtant, c'était un cadre de vie. Ils sont mariés, ils ont une maison, ils ont tout pour, je dirais, avoir un minimum de ce que beaucoup espèrent et qui n'ont pas. Mais malgré ça, ils se sont tués, bien-aimés. Puisque pour eux, ils étaient déjà comme morts. On peut paraître comme vivant, mais en réalité, être mort. Il y a des gens pour lesquels la vie ne compte plus. Il y a des gens qui ont essayé à multiples reprises de se suicider. Parce que pour eux, ils ne vivent pas. Pour eux, ils sont déçus de la vie. Si la vie, c'est ça, mais à quoi ça sert de vivre? Si la vie, ce n'est que des difficultés. Si la vie, ce n'est que des problèmes. Si la vie, c'est payer des factures tout le temps, bien-aimés. Alors, à quoi ça sert de vivre? Et beaucoup tentent de se suicider. Parce que bien qu'ils sont en vie physiquement, en réalité, spirituellement, ils sont morts. Donc, pour eux, ça ne sert à rien de vivre. Physiquement aussi. Puisque spirituellement je suis mort, autant aussi sacrifier le corps, parce que ça ne sert à rien. Bien-aimés, comprenons que la vie spirituelle, celle que Dieu nous propose, est plus importante que tout. Et cette vie-là, bien-aimés, nous pouvons la donner en parlant du Seigneur, en disant aux gens qu'après la vie, il y a quelque chose de meilleur, en disant aux gens que le temps des souffrances sur cette terre n'est que passager. Il y a des promesses pour eux. Il y a des promesses que Dieu a faites pour chacun des hommes. Il y a un plan merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous. Beaucoup, bien-aimés, ont besoin d'entendre ça pour pouvoir vivre. À partir de la prédication, nous pouvons donner la vie à ceux qui sont morts, bien-aimés. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Or, bien-aimés, on ne peut pas être un disciple de Jésus si on n'a pas sa vie. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir donner cette vie-là en prêchant la bonne nouvelle. Actes chapitre 8. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit: « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ?» car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit: « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Un homme bien-aimé, la Bible dit qu'il se rendait à Jérusalem pour adorer. Or, l'adoration se réfère à Dieu lui-même, à sa personne. L'adoration se réfère à la nature de Dieu. Donc, comprenons qu'on ne peut adorer que ce qu'on connaît. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas l'adorer. Or, cet eunuque-là, la Bible dit que lui, il allait pour adorer. Et en allant adorer, il lit un passage qui parle du roi des rois, mais il ne comprend pas. Il était sincère, bien-aimé. Il allait pour adorer. Nous voyons aujourd'hui comment le monde se rebelle devant le Seigneur. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi des tremblements de terre? Si Dieu existe, pourquoi des enfants sont tués? Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu et ils ne comprennent pas les raisons de tous les malheurs qui se vivent sur la terre. Et par conséquent, ils ne peuvent pas l'adorer. Et ils passent leur temps à maudire Dieu. Pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et cet eunuque-là, dans sa sincérité, allait à Jérusalem pour adorer Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ était à Samarie, il dit à cette femme, « Donne-moi de l'eau. » La femme lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Jésus lui dit, « Mais si tu savais qui te demandait de l'eau, si tu savais celui qui était en face de toi. » La femme, dans son orgueil, a continué. « Mais toi, tu demandes de l'eau, mais cette eau-là, nous, on l'a eue de nos ancêtres. Notre Père nous a légué ce puits-là. » Par la suite, le Seigneur leur dit, « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » L'Éthiopien était dans ce cas de figure, bien-aimé. Il adorait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. La Bible, le Seigneur dit à son serviteur, « Va voir cet homme-là. » Philippe lui pose la question, « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?»« Non, je ne comprends pas. » Et pourtant, il allait adorer Dieu. Beaucoup bien-aimés viennent dans des assemblées, pensant adorer Dieu, peut-être sincèrement, et en réalité, ils ne le connaissent pas. Ils sont sincères, mais ils ne le connaissent pas. Parce que leur vie témoigne aussi qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils font des choix, ils prennent des décisions qui va contredire la parole de Dieu. Et ils font ces choix-là en toute sincérité. Et ils viennent dans un esprit de vouloir adorer Dieu. Et quand ils entendent la parole, ils disent, « Ah bon? Je ne savais pas. » Mais ce que nous vivons aujourd'hui, je vous ai donné le témoignage bien-aimé la fois passée. Lorsqu'on était au Congo et qu'il y a des personnes qui attendaient le baptême, 4 personnes attendaient pour être baptisées. Le culte, 6 heures du matin, ils sont là. Ils étaient motivés. Mais quand je leur ai dit, mais je ne peux pas vous baptiser, vous êtes dans le concubinage. Bien aimé, c'était comme un tremblement de terre. Jamais personne ne leur avait dit qu'ils étaient dans le péché. Certains avaient peut-être même des responsabilités dans leur église. Parce que les prédicateurs ne leur avaient pas dit. Est-ce par ignorance ou est-ce simplement pour préserver un certain intérêt? Parce que dire la vérité quelquefois, ça fait fuir et ça fait diminuer le nombre dans l'église. Alors ils avaient reçu un évangile partiel et ils ne comprenaient pas. Et cet eunuque-là était surpris. Mais comment je vais comprendre si personne ne me guide? Il n'avait pas compris, bien-aimé. Or la Bible dit que Dieu a établi des apôtres. Il a établi des pasteurs, des évangélistes, des docteurs pour amener les saints à la perfection, pour les amener à la connaissance de Christ. Et les bergers, les prédicateurs ne font plus leur travail. Or, c'est par la prédication aussi que le Seigneur a choisi de sauver. On ne peut pas négliger la prédication. C'est par la prédication que nous avons cru, que nous avons été sauvés. Et c'est par cette même prédication que le Seigneur veut sauver d'autres. Mais lorsque la prédication est voilée, lorsqu'elle est partielle, bien-aimés, comment pouvons-nous donner la vie ? Comment pouvons-nous apporter la révélation de Jésus? Philippe lui a expliqué. La Bible dit en lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme a compris. Aussitôt, il a cherché à se mettre en règle avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut empêcher que je me fasse baptiser? Beaucoup pensent adorer Dieu. Seigneur, je veux de toi. Tu as accepté le Seigneur? Oui, oui, oui. Bon, donc dimanche prochain, le baptême alors. Oh non, non, il faut que je réfléchisse d'abord. Mais quelle contradiction! Comment tu peux prétendre accepter le Seigneur, on te parle du baptême, tu dis je ne suis pas prêt? Ça, ce n'est pas une vraie conversion. Le baptême, c'est le premier acte d'obéissance. Le premier acte d'obéissance, c'est le baptême. Non, non, je vais réfléchir d'abord. Ah bon, mais c'est étonnant. Et beaucoup de gens bien-aimés sont dans le monde. Ils cherchent le Seigneur sans réellement comprendre les événements qu'ils peuvent vivre. Certains ont fait des songes, ont eu des visions, mais ils ne comprennent pas. Mais le jour où ils entendent l'évangile, le sens qu'il avait fait peut-être quand il était enfant commence à prendre une autre tournure. Les choses qu'il a vécues sans réellement les comprendre commencent à prendre une autre tournure. Ce qu'il cherchait lorsqu'il s'est retrouvé dans telle secte, ce qu'il cherchait lorsqu'il s'est trouvé dans tel mouvement, parce qu'il avait soif de Dieu. Le jour où il entend la bonne nouvelle de Jésus, il comprend que finalement tout ce qu'il cherchait, c'était ça. Mais si personne ne lui prêche, il va continuer à errer. Si les disciples n'acceptent pas d'obéir à Dieu lorsqu'il dit « va et parle », on se pose des questions, parce qu'on voit le visage de la personne. « Ah, lui, il a l'air fâché, je ne préfère ne rien dire. » Mais derrière ce visage, il se cache une personne qui a besoin de Dieu, qui attend cette parole de consolation, qui attend la bonne nouvelle de Jésus. Mais si personne ne lui dit « bien-aimé », c'est du temps perdu. Philippe a obéi. Il est parti, il a prêché la bonne nouvelle à cette personne-là. Lui qui allait adorer parce qu'il croyait connaître, il a réalisé que ce jour-là, la révélation qu'il avait de Dieu était une révélation partielle. Mais lorsqu'il a entendu la prédication de Philippe, la révélation a été totale. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui dit « j'aime Dieu » mais qui n'a pas Jésus n'a pas Dieu non plus. On ne peut pas séparer Dieu de Jésus. Le Seigneur a dit « je suis dans le Père et le Père est en moi ». Lui et moi, nous sommes un. Celui qui a Dieu mais qui n'a pas connu Jésus, c'est une révélation partielle de Dieu. Or, cette révélation peut être totale par le moyen de la prédication. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allons et manifestons la bonté de Dieu. La Bible nous parle d'un homme. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6. Dans le livre des Actes, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Corneille. Il adorait Dieu, il aimait le Seigneur. Mais sa révélation était partielle. Dieu a envoyé son serviteur Pierre aller lui prêcher la bonne nouvelle. Et la révélation que Corneille avait de Dieu est devenue totale après la prédication de la bonne nouvelle de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Par la prédication, nous pouvons annoncer le jugement de Dieu. Alors, nous avons lu, bien-aimés, ce que le Seigneur condamne. Et ce qui est malheureux, c'est que lorsque même au milieu des chrétiens, on prêche ces réalités-là, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui disent « Ben non, vous êtes extrémistes. » Est-ce que c'est un homme qui s'est levé pour dire que les homosexuels iront en enfer? Est-ce que c'est un homme qui s'est levé pour dire que les efféminés iront en enfer? Les ivrognes aussi? Lorsque nous disons ces choses-là, ben vous êtes trop dur, vous êtes intolérant. Bien-aimés, soit on prêche l'évangile, soit on ne prêche pas l'évangile. Or, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui libère. L'apôtre dit, vous étiez dans ces choses-là, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Par la prédication, bien-aimés, nous devons annoncer aux personnes que Dieu les aime, mais dans le péché dans lequel ils sont, s'ils demeurent, ils iront en enfer. Comment pouvons-nous dire que nous aimons les gens si nous refusons de dénoncer le péché dans lequel ils sont? Lequel des parents bien-aimés qui va voir son enfant jouer sur le bord du balcon et va rien lui dire? Mais si tu aimes ton fils à la manière du monde, ben laisse-le aussi jouer sur le bord du balcon. Parce que tu l'aimes, tu ne laisseras pas faire ça. Lequel des parents qui verra son enfant jouer avec un couteau le laissera jouer? Parce qu'avec le couteau, il peut se blesser. Alors lequel disciple de Jésus bien-aimé, lequel serviteur de Dieu qui voit des gens autour de lui se perdre dans les péchés et qui dit que lui, il a reçu la révélation, il a reçu la vie de Dieu, il a reçu l'amour de Dieu et il laisse les gens continuer dans leurs péchés. Pour dire, mais non, ça c'est l'extrémisme, on ne peut pas dire ça, il faut aller doucement. On va aller doucement, comment bien-aimé? Mais s'il faut aller doucement, laissons aussi nos enfants jouer doucement avec le couteau, il va comprendre petit à petit. Laissons lui faire aussi toutes ces bêtises-là, il comprendra petit à petit. Bien-aimé, si rapidement on court, lorsqu'il est là à 10 mètres en train de jouer avec le couteau, tu déposes tout, tu cours pour lui prendre bien-aimé. Parce que tu sais qu'à tout moment, il peut se blesser. Alors le Seigneur nous donne l'occasion de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. D'annoncer le jugement de Dieu pour amener les gens à la repentance, on va dire maintenant doucement, doucement, comme c'est la première rencontre, on va s'arranger la prochaine fois. Bien-aimés, où on est serviteur de Dieu, où on est serviteur des hommes. On n'a pas à plaire aux hommes. On n'a pas à prêcher des paroles doucereuses pour satisfaire les hommes. La bonté de Dieu, c'est aussi sa justice. On ne peut pas dire que Dieu est bon si on n'avertit pas les gens. Ils sont dans le péché. Il faut leur annoncer que ça, c'est une situation qui mène à la mort. Mais le Seigneur est prêt à vous laver. Le Seigneur est prêt à vous justifier parce qu'il est mort pour vous à la croix. C'est ça le jugement de Dieu bien-aimé. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Si nous pouvons dire que le Seigneur est bon, c'est parce que nous avons eu sa révélation. Si nous pouvons dire que le Seigneur est bon, c'est parce que nous expérimentons sa vie. Si nous pouvons dire que Dieu est bon, c'est parce que nous savons que l'injustice de ce monde-là passera un jour, Dieu nous justifiera un jour. C'est parce que nous savons que Dieu est juste, que nous pouvons accepter d'être maltraités, que nous pouvons accepter d'être injuriés, parce qu'on sait qu'un jour Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est la bonté, la justice de Dieu qui nous console lorsque tout est difficile. Mais cette bonté de Dieu, le Seigneur dit que nous devons aussi la partager aux autres. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Si le Seigneur a manifesté sa bonté de différentes manières, ce n'est pas pour que nous puissions rester et nous tourner les pouces. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et je crois que chacun à notre niveau, nous sommes bien placés pour voir que réellement il y a peu d'ouvriers. Parce que c'est la parole qui dit donc que c'est vrai. Bien-aimés, levons-nous. Prenons le Seigneur au sérieux, servons le Seigneur et manifestons clairement par notre manière de vivre que réellement nous avons goûté que Dieu est bon. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel si vous avez goûté que Dieu est bon. Alors si Dieu est bon, bien-aimé, manifestons-le aussi dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, dans notre prédication. Si réellement Dieu est bon, bien-aimé, faisons-lui confiance et attendons-nous à lui. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, tu es vivant. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, Seigneur de gloire. Merci pour ta fidélité. Seigneur, c'est vrai que nous avons goûté que tu es bon. Et nous ne voulons pas être rassasiés de toi, Seigneur. Mais nous voulons davantage. Seigneur, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, Seigneur de gloire, augmentons-nous, Seigneur, l'appétit de ta parole, Seigneur. Augmentons-nous la soif de ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur de gloire, à réaliser combien tu es bon, à réaliser le sacrifice de la croix. Aide-nous à réaliser, Seigneur de gloire, combien tu es merveilleux. Seigneur, nous étions dans les ténèbres, nous étions morts. Par ta parole, tu nous as ressuscités. Nous étions dans le péché, Seigneur de gloire. Tout droit vers l'enfer. Par tes jugements, Seigneur de gloire, tu nous as redressés. Nous étions aveugles. Errants, Seigneur de gloire. Suivant notre propre voie. Seigneur, tu t'es révélé à nous. La Bible dit que tu as exaucé, Seigneur de gloire, ceux qui ne te demandaient rien. Tu t'es révélé auprès de ceux qui ne te cherchaient pas. Et nous en faisons partie, Seigneur. Seigneur de gloire, aide-nous à accepter ta bonté, à accepter ton amour, Seigneur. Tu vois combien de fois, Seigneur de gloire, nous demeurons dans la culpabilité, Seigneur de gloire, alors que toi, tu pardonnes. Alors que tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Libère-nous de l'orgueil de la culpabilité, Seigneur. Aide-nous à comprendre que nous ne sommes rien et que nous avons besoin de toi. La moisson est grande, Seigneur de gloire, il y a peu d'ouvriers. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci, Seigneur de gloire, pour les messages que tu nous as donnés, Seigneur. Merci pour la révélation dans la prédication, Seigneur. Dans le nom de Jésus. C'est toi que nous voulons célébrer, Seigneur de gloire. C'est toi, Seigneur de gloire, que nous voulons élever, car ta bonté et ta miséricorde durent à toujours. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Merci encore, Éternel de gloire, pour la bonté que tu manifestes chaque jour en maintenant en nous le souffle de vie. Nous n'avons pas mérité cela, Seigneur, mais dans ta souveraineté, Seigneur de gloire, tu nous le donnes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons, Seigneur de gloire, t'adorer. Aujourd'hui encore, Seigneur de gloire, nous voulons reconnaître tes merveilles, Seigneur de gloire, et les proclamer. Nous voulons, Seigneur de gloire, ce matin, comprendre ton amour, Seigneur, afin de nous communiquer l'élan, Seigneur de gloire, de pouvoir t'adorer en retour. À toi seul soit la gloire. Au siècle des siècles, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia.